Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 4 décembre, c'est toujours l'automne. Un temps à faire pleurer les moutons, mais si vous écoutez Escapade, c'est que vous n'êtes pas des moutons. Jusqu'ici, ça va. On est ensemble pour une heure d'info citoyenne et indépendante en région. Bienvenue dans Alta Midi en Escapade avec Fabien à la réalisation. Une émission qui prolonge et complète les contenus du bimédia citoyen et indépendant d'Altermédie en partenariat avec Radio Escapade. À propos de partenariat, on a besoin de vous pour faire la courte échelle pour monter au pylône, je crois. Là. Au menu de l'émission du jour, du réconfort et quelques inquiétudes dans la rubrique Média, en contrepoint des états généraux présidentiels de l'information lancés le 3 octobre, plus de 100 médias et organisations réunis dans les états généraux de la presse indépendante formulent 59 propositions de réforme de notre système d'information. Nous poursuivrons avec l'espoir de trouver quelques alternatives à travers l'économie sociale et solidaire. À l'occasion du mois de l'ESS qui vient de s'achever, le département du Gard inaugure son nouveau plan. On en parle dans un entretien avec Hélène Meunier, vice-présidente du conseil départemental du Gard, en charge de l'économie sociale et solidaire. C'est fait. Après 2 mois de discussions et de réunions, les états généraux de la presse indépendante formulent 59 propositions de réforme de la presse et de notre système d'information. Cette initiative proposée début octobre par le Fonds pour une presse libre, présidé par François Bonnet, ex-journaliste du Monde, de Libé et cofondateur de Mediapart, est une tentative de réponse aux états généraux présidentiels de l'information officiellement lancé le 3 octobre par l'Élysée. La promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui souhaitait créer un espace de discussion pour les acteurs de la presse française et les citoyens, c'était, il faut bien le dire, enlisé jusqu'à la nomination de Geoffroy Lejeune, ex-rédacteur en chef de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, à la tête du JDD. Le mouvement de grève au JDD et le soutien quasi unanime au sein de la profession a donné au gouvernement l'occasion de ressortir du placard les états généraux de l'information en juillet dernier, pour un lancement le 3 octobre. Mais la tournure qu'a pris l'événement, dont la composition du comité de pilotage a été décidée par le gouvernement, effraie les acteurs concernés. Cette méthode politique n'apporte ni légitimité ni confiance. Il n'y a aucune concertation préalable. Il n'y a eu aucune concertation préalable. Les partenaires sociaux n'ont pas été conviés, ni en amont, ni au lancement du processus. On peut se demander quelle légitimité ont les états généraux qui se font sans les organisations représentatives de la profession. Le pouvoir suprême prétendant réformer le contre-pouvoir, cela prête à sourire ou à protester. Sous l'égide du Fonds pour la presse libre, 100 médias indépendants et organisations, syndicats de journalistes, collectifs de journalistes, associations de défense des droits d'association de défense de la liberté d'informer, se sont réunis pour construire d'autres états généraux. Une initiative à laquelle Altermédie ne s'est pas associée en raison de quelques réticences sur la gouvernance et la centralisation de cette organisation. Reste que ces 100 participants ont tenté de construire ensemble, malgré leur diversité et leurs désaccords légitimes, une plateforme commune de réformes urgentes et indispensables pour défendre et renforcer cette liberté fondamentale qu'est le droit de savoir et de connaître toute information qui relève de l'intérêt public. Si l'initiative fait l'unanimité, chaque participant est arrivé avec ses revendications, obligeant à un compromis. On s'en accommode, mais on estime que certaines propositions ne sont pas assez radicales, confesse à l'Humanité l'un des animateurs du collectif Acrimed, Mathias Raymond, qui enseigne les sciences économiques à Montpellier 1. Plusieurs points font néanmoins consensus. La lutte contre les procédures Bayon qui se généralisent dans l'Hexagone avec une volonté de criminaliser l'action journalistique. la réforme des aides à la presse. Rappelons qu'en 2022, les trois médias ayant touché le plus d'aides sont aujourd'hui en France 12,2 millions d'euros, Le Figaro 5,9 millions d'euros et Le Monde 5,8 millions d'euros. Selon les participants, les critères d'accès à cet apport financier de l'État doivent être revus. La place des minorités au sein des rédactions figure aussi parmi les propositions de réforme. Les 59 propositions de réforme ont été réunies dans un livret numérique que vous pouvez télécharger sur le site du Fonds pour une presse libre. Parmi ces propositions, on trouve aussi la refonte de la loi de 1986 afin de combattre la concentration des médias, la mise en place d'immunités de poursuite civile pour empêcher les poursuites en référé visant à censurer avant toute publication les contenus journalistiques. Jeudi dernier à Paris, les États généraux de la presse indépendante ont réuni des médias, des syndicats et des collectifs afin de rendre compte de ces pistes pour réformer le secteur. Clin d'œil sympathique au système médiatique français, les animateurs de la soirée, la journaliste et essayiste Nora Boisouni et le journaliste David Dufresne, portaient respectivement un masque de Vincent Bolloré et de Bernard Arnault. Une chanson simple qui évoque un couple dont le garçon explique la désagréable habitude qu'a sa petite amie à être entêté pour des riens, sans qu'il comprenne vraiment tout. Il doit parfois se justifier, mais elle reste en colère. Il lui explique donc qu'il faut aussi se souvenir des bons moments passés ensemble, ce qu'il aime chez elle. Le mois de l'SS vient de se clôturer et un temps annuel se déroulant au mois de novembre qui donne l'opportunité de découvrir l'ESS et de comprendre ce que cette forme d'économie peut apporter à notre société en pleine transition. Solidarité, alimentation, développement des territoires, santé, emploi, logement, éducation, mobilité, énergie, coopérative, mutuelle, démocratie. On retrouve l'économie sociale et solidaire à tous les étages de notre société. À l'occasion du mois de l'ESS, qui vient de s'achever, le département du Gard, très investi dans ce domaine, inaugure un nouveau plan d'action. On en parle avec Hélène Meunier, vice-présidente du conseil départemental du Gard en charge de l'ESS et de la lecture publique que nous avons rencontrée dans le cadre des concertations préalables au nouveau schéma départemental d'économie sociale et solidaire gardois.
Nous sommes en train de travailler actuellement et nous espérons finaliser ça en 2024, premier ou deuxième trimestre 2024, sur un schéma de l'économie sociale et solidaire, qui viendra compléter un schéma départemental des solidarités, un schéma unique des solidarités dans lequel l'ESS a déjà une place. L'intention, si vous voulez, du département par rapport à tout ça, c'est de trouver, d'isoler les acteurs locaux sur lesquels, enfin, existants, et puis éventuellement de faire émerger d'autres, de manière à favoriser ces modèles et ces initiatives qui sont économiques et solidaires, en faisant en sorte que, eh bien, il y ait une réponse plus adaptée aux besoins des territoires. Oui, à l'intérieur du département. Mais il n'y a pas la politique alimentaire ou la politique agricole gardoise, elle est importante, elle est prégnante, elle est forte à travers des labels comme Militants du goût, à travers Visite à la ferme, Gare à la ferme, enfin à travers les CIVAM, à travers tout ça, à travers la défense d'une qualité alimentaire, y compris dans les collèges, mais ça ne se limite pas aux coopératives.
En termes d'axes à moyen et long terme, si on se dit que l'ESS est un vecteur incontournable pour opérer une mutation du secteur agricole, face notamment au double défi du réchauffement climatique et de la malnutrition, ce que vous me donnez comme élément, est-ce que quelque part ça peut faire cohésion dans un axe politique ?
Mais ça peut faire cohésion dans un axe politique dans la mesure où ce que vous dites, à savoir qu'il y a une nécessaire adaptation peut-être effectivement des agriculteurs ou des paysans au réchauffement climatique et un certain nombre de contingences, ça va se décliner forcément de manière différente selon les territoires. C'est-à-dire que, d'abord parce qu'il y a un existant qui est là, donc il y a la vigne, et puis il y a le maraîchage, et puis il y a toutes sortes de produits qui existent et qui sont patrimoniaux, si j'ose dire. Donc ça, il faut dans la mesure du possible essayer de les préserver, essayer de favoriser, ça a été fait il y a plusieurs années, la constitution de coopératives également, autre que dans le domaine purement viticole. Je pense par exemple à la coopérative de l'Oignon Doux, mais ça peut être aussi, je mettrais, ça se met pas sur le même pied d'égalité, mais si vous voulez, dans le domaine de l'ESS, je ferais rentrer aussi des associations de jardins partagés qui feront du maraîchage à une échelle petite, à une petite échelle, en direction de personnes qui sont...
Oui, parce que si on prend l'exemple des Cévennes, vous citiez la question de l'oignon doux, c'était positif, mais tout le monde s'est mis à l'oignon doux, et aujourd'hui, la question qui peut se poser, c'est justement, est-ce que c'est une solution d'avenir que de faire que de l'oignon doux dans les Cévennes?
C'est-à-dire que maintenant, l'oignon doux, un peu comme la châtaigne, ce sont des produits emblématiques des Cévennes. Je pense à l'oignon doux, évidemment. Je pense à la châtaigne qui vient d'avoir un AOP, alors que ça fait, depuis que je suis élue, que je vois des personnes se battre pour avoir un AOP concernant la châtaigne. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'eau.
Ben oui.
Et que ça concerne autant l'oignon doux que la châtaigne. Parce que les récoltes de châtaigne dans ces dernières années ne sont pas flamboyantes. Donc après, moi je ne sais pas, je crois d'ailleurs que dans le pays viganais où c'est l'oignon doux qui est emblématique, l'oignon doux et la pomme, ils ont essayé déjà de conduire un certain nombre d'évolutions concernant la pomme rainette, puisqu'elle n'est plus la culture exclusive au niveau des vergers cévenols, elle n'était pas, il y avait d'autres variétés qui étaient adaptées, moi je crois, alors là, mais par rapport à ces problématiques, je crois qu'il faut essayer de maintenir les produits emblématiques et traditionnels et essayer de sauver ceux qui sont un patrimoine en définitive, tout en ayant aussi la volonté de tenir compte des évolutions et d'essayer de s'adapter. Mais je crois que vraiment là, je connais un peu mieux ce qui se passe dans les Cévennes, mais je crois vraiment que les cultivateurs d'oignons, par exemple, ont fait des efforts d'efforts pour réduire la consommation d'eau, réduire aussi les traitements, c'est pas toujours du bio, hein, mais ça, de réduire les traitements. Voilà. Après, est-ce que la structure, je pense que la structuration coopérative en ce qui les concerne a été vraiment une très bonne chose, même si tout le monde dans le milieu ne partage pas cette idée-là, et même s'il y a toujours dans une structure coopérative un peu importante des hauts et des bas, hein, voilà, c'est une bonne chose. Après, sur les grands enjeux,
c'est un peu ça qui nous intéresse, parce que on est dans un monde où il faut les penser, et il faut commencer dès maintenant la transition. Et donc,
oui,
on
absolument.
Peut pas à la fois maintenir tout ce qu'on a fait et changer.
Je suis d'accord avec vous, mais par exemple, là, si vous voulez, il me semble que par rapport à ce défi-là, c'est pas tellement le statut ou le caractère ESS des structures qui va permettre leur évolution. Si, bah, peut-être,
dans une certaine mesure, par rapport aux valeurs qu'elles portent, l'ESS est, me semble-t-il, un vecteur important de mutation, comme d'ailleurs, on pourrait dire, les collectivités territoriale. Quand on regarde, on voit bien que la priorité gouvernementale, loin s'en faut, n'est pas de soutenir l'ESS. Hein. Les dernières nouvelles sur le budget 2024 sont là pour le confirmer. Donc, il y a ces questions-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les collectivités territoriales, elles ont, et c'est une question en fait, hein, quelle place elles peuvent tenir, ces collectivités territoriales, en termes de structuration du secteur de l'ESS. Je dirais au niveau à moyen et long terme, mais aussi par rapport à la crise qui s'annonce.
Nous, si vous voulez, nous, on l'approche dans toutes ces thématiques, on essaye de l'approcher dans toutes ces thématiques, la question ESS, donc pas simplement la question du social. On pense également à la transition écologique.
Ouais.
Bien sûr, à tout ce qui se fait dans l'économie circulaire, les recycleries, etc. Mais si vous voulez, le département, dans ses compétences, bon, historiquement, il a un attachement à tout ce qui est agriculture, mais ce n'est pas l'axe majeur, si vous voulez, par rapport à l'entrée ESS. L'axe majeur, c'est plutôt autour des solidarités et je dirais, pour essayer d'élargir, puisqu'on n'a plus non plus la compétences économiques, ça c'est la région qui l'a, donc c'est, il faut rester quand même en tant que département dans ses compétences. C'est la question de l'aménagement du territoire, c'est pour ça que je vous parlais plutôt des territoires et de leurs spécificités. Notre idée, c'est d'essayer de faire émerger les spécificités, les besoins et la couleur de chaque territoire, pour essayer de voir quelles seraient ou quelles sont les structures ESS qui pourraient répondre aux grandes problématiques de ces territoires en termes de solidarité, d'aménagement du territoire.
Mmh.
Alors, l'agriculture en fait partie, mais c'est pas l'axe principal,
ouais,
si vous voulez,
ouais,
qu'on a pris sous le volet ESS.
Les acteurs de l'ESS doivent-ils réaffirmer, pour vous, leur pratique entrepreneuriale et leur engagement au niveau politique? Et pour compléter cette question, vous parliez notamment, justement, effectivement, les départements n'ont pas la compétence économique, mais peut-être y a-t-il des moyens d'action pour favoriser le développement de ce secteur malgré tout, justement en travaillant sur des axes qui peuvent être un peu différents.
Alors, nous, là, pour être sûr de bien comprendre la question, est-ce que vous voulez dire, est-ce que le département sera incitatif pour que les structures ou les acteurs, par exemple associatifs, évoluent vers des statuts de SIC ou de coopératives? C'est ça la question?
Oui, c'est ça. C'est réaffirmer aussi les valeurs, c'est-à-dire le fait de ne pas être motivé par la lucrativité, par le partage des richesses plutôt, mais surtout par l'intérêt collectif au général, ce qui n'est pas le cas de l'économie classique.
Ah ben non, ça c'est, voilà. Mais oui, mais ça c'est vraiment typiquement la spécificité de l'économie sociale et solidaire.
Une fois qu'on l'a dit, après, quelle action politique concrète derrière?
Alors, nous, dans les actions politiques concrètes que l'on veut faire, déjà, c'est l'axe principal pour lequel on veut. Après, on ne peut pas donner les grands axes du schéma en amont de la concertation. Mmh. Sinon, ça n'aurait pas trop de sens de faire une concertation. Même si, je vous l'ai dit, hein, voilà, nos axes à nous, c'est les grands axes, c'est le social et l'aménagement du territoire. Mais pour rentrer un petit peu dans le détail, l'axe principal, ça serait voilà, de soutenir les coopérations locales qui sont adaptées aux besoins spécifiques des territoires dans tous les domaines, et surtout ce dont je viens de vous parler. Pas vraiment dans l'axe économique, mmh. hein, mais il y a l'axe économique aussi, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des structures qui puissent tenir la route. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais après, ce qu'on souhaite faire pour développer dans un premier temps l'économie sociale et solidaire, d'abord c'est de la promouvoir, de la faire connaître, premièrement. Mmh. Donc avec peut-être faire tout un travail, on l'a dit, c'est ce qu'on souhaite, troisième, puisque ouais. nous avons la compétence des collèges. Ouais. L'idée de devoir déjà promouvoir l'ESS et faire découvrir ce secteur économique un peu atypique à la population, mais également à la jeunesse. J'ai été interpellée là-dessus il y a 2 ans, en novembre, lors des journées... des journées de l'ESS, mmh. voilà, par une personne qui disait, mais nous, on a besoin de faire découvrir aux jeunes ce que c'est que l'ESS, et on aimerait bien, par exemple, qu'ils viennent faire des stages de troisième dans nos structures, etc.
Vous êtes bien sur Radio Escapade avec le média indépendant Altermidi. Banes Blonde dans sa version française, amalgame d'acid jazz, de bossa et de trip-hop, le mixage millimétré de Bob Garza et Eric Hilton, qui opère en duo sous le nom de Tivoli's Corporation, compte parmi les figures du trip-hop, relax et composite. Ils ont conquis les clubs et les platines au début des années 2000 sur l'emblématique label 4AD.
la concertation, une concertation sur les territoires, donc sur des, dans différents secteurs gardois, une concertation générale avec les acteurs de l'ESS, c'est-à-dire cette fois-ci plus thématique et un peu plus, on va dire, plus globale, et puis une concertation interne également avec les élus et les agents du département pour acculturer aussi toutes ces personnes à l'ESS. Mmh. Parce que la difficulté de l'ESS, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des tas de réflexes, de pensées que l'on n'a pas ou de façons de travailler qui n'intègre pas suffisamment l'ESS parce que c'est pas dans la méthodologie habituelle. Voilà. C'est très transversal. Et donc, il y a des tas de solutions ou d'idées ou qu'on rate parce qu'on n'a pas idée de croiser. Et d'ailleurs, je me mets dans ceux qui ont besoin d'être acculturés. Moi, j'ai découvert l'ESS en 2017 à la faveur de la création d'un tiers-lieu que j'ai pu accompagner, voilà. Et là, du coup, j'ai été éblouie, mais je reconnais que pour moi, qui m'intéresse un peu plus à l'ESS maintenant, même pour moi, c'est une compétence complexe que de savoir travailler comme il travaille justement dans les secteurs de l'ESS où il y a ils ouvrent des sentiers voilà que personne n'a trop travaillé en faisant des connexions là où personne n'en fait. Mmh. Et ça me paraît avec aussi un savoir particulier qui n'est pas beaucoup partagé. Mmh.
Mais ça veut dire aussi pouvoir être en capacité de changer sa disquette. Et ça, c'est peut-être le plus difficile.
Alors, pour changer la disquette, il y a l'histoire du spazer, là, qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et c'est un dispositif qui permet d'intégrer vous le connaissez peut-être d'ailleurs mieux que moi, dans la réglementation des marchés publics, ouais. Qui permet d'intégrer des dispositifs à caractère social et écologique. Ouais. Et voilà, là ça c'est un axe aussi sur lequel il faut qu'on travaille parce que c'est pas tellement, il y a des clauses d'insertion par exemple dans les marchés publics qui existent, mais cette histoire de spazer à l'échelle du département, je suis pas sûre qu'elle soit encore c'est pas encore au point, donc ça aussi ça fait partie des points d'amélioration vers lesquels on va se diriger.
C'est-à-dire que le conseil départemental émettra ou émet déjà des appels à projets spécifiques vers le secteur.
Émettra, ouais, parce que pour l'instant, c'est pas le cas.
D'accord.
Donc ça fait partie, si vous voulez, des pistes dans un des axes qu'on a intitulé laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Déjà, c'est la mise en place d'un spazer. Oui.
Vous avez conduit des actions pour évaluer les besoins des acteurs de l'ESS. Il y a déjà eu une phase, je crois, de travail dans cette direction. Comment ça s'articule la parole institutionnelle avec celle des acteurs de l'ESS sur le territoire ?
On essaie de répondre au mieux à leurs besoins. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous, on a l'habitude de travailler parce qu'on a une intention, on a des axes, on a une volonté. Bon, très bien. Après, il faut une méthode et des financements. Bon, la méthode, souvent, ou le mode de financement le plus qui vient à l'esprit le plus souvent des élus ou des techniciens, c'est l'appel à projet. C'est un bon outil. Ben, par exemple, les acteurs de l'ESS nous ont dit « Mais arrêtez de nous parler des appels à projets. Mmh. » Parce que les appels à projets, ce sont des dispositifs qui nous mettent presque en concurrence. Mmh. Parlez-nous plutôt des appels à communs. Mmh. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde et qu'on travaille. Mais c'est les collectivités, c'est quand même des grosses machines. Mmh. Et c'est difficile d'évoluer. Alors ça se fera, parce que la volonté, elle est là. Mais ça se fera d'abord à la marge, ça deviendra de plus en plus grand. Et mais l'idée, ça serait donc de faire plutôt des appels à communs où chacun prend une partie, si j'ose dire, de l'appel à projet. Il y a une volonté politique, mais on n'a pas un langage commun. On a peut-être une vision politique, un constat politique commun, mais on n'a pas le langage commun, on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Il faut que chacun apprivoise un peu l'autre. Hein. Voilà. Et puis, on est obligé quand même, en tant que département, de faire des choix. Voilà. On ne va pas pouvoir tout faire du jour au lendemain.
Parce que au niveau des écosystèmes territoriaux, on voit bien, notamment à l'égard des missions qui sont accordées au CRES, qu'elles ne sont pas suivies du financement approprié. C'est aussi une histoire de financement. C'est-à-dire que ce schéma, est-ce qu'il va, il porte aussi derrière un budget qui va permettre la réalisation, ou est-ce qu'il reste un schéma d'orientation?
Alors, écoutez, ça, ça ne va pas être révolutionné du jour au lendemain, mais j'ai bon espoir quand même, et ça fait partie d'un des axes qu'on a identifié, c'est de mieux accompagner les grands acteurs ressources d'Ardois, de l'ESS, parce que la contribution que l'on a auprès d'eux, elle a le mérite d'exister, mais effectivement, elle est assez, modique. Et donc, on a la demande politique, c'est effectivement d'augmenter le budget des contributions du département à ces structures. Voilà.
Pour vous, quelles sont les priorités de ce schéma ?
De trouver des réponses territoriales aux besoins. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Quand on a fait le schéma des solidarités, le schéma unique des solidarités, alors je reviens plutôt à du social, on a constaté que dans les territoires ruraux, par exemple, il y avait des problèmes d'isolement et de mobilité importants.
Oui.
Et par exemple, à un moment donné, a émergé l'idée de créer des taxis solidaires. Ça me paraît être une mission qui pourrait tout à fait correspondre à une structure OSS.
Oui.
Qui pourrait ensuite, après, prendre d'autres missions et trouver, par rapport aux habitants de son territoire, isoler des problématiques qui sont très particulières à ce territoire-là, et qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus d'un territoire rural à un autre territoire rural, et apporter la réponse, tout en trouvant un modèle économique qui permette aux gens de dégager un salaire, tout en rendant un service à la population qui en a besoin. Pour moi, si vous voulez, l'ESS, c'est la réponse aux problématiques des territoires, on va dire, entre guillemets, des marges, c'est-à-dire les territoires qui sont pas urbains. L'urbain. Et encore que dans l'urbain, pour moi, les quartiers politiques de la ville font partie de ceux où l'ESS a un véritable rôle à jouer, et joue d'ailleurs un rôle déjà, mais a un véritable rôle à jouer, où il faut développer ce genre de structure. Que ce soit dans la ruralité, dans l'hyper-ruralité, où les problématiques ne sont pas les mêmes, ruralité, hyper-ruralité, ce n'est pas pareil. Que ce soit dans les zones périurbaines, que ce soit dans les zones urbaine, quartier politique de la ville, c'est-à-dire tous les territoires qui ont vraiment des spécificités propres et où les besoins ne sont pas naturellement, si j'ose dire, tous satisfaits par l'organisation de la société, on va dire, il me semble que c'est là que l'ESS a son rôle à jouer pleinement. Tout en dégageant un modèle économique qui est viable, pour que ce soit gagnant-gagnant, en fait. C'est-à-dire que les gens puissent s'impliquer sur leur territoire, répondre aux besoins des habitants, mais que ce soit même aussi, je dis n'importe quoi, pourquoi pas en gestion des déchets, ou en comme vous l'avez dit, en qualité alimentaire, ou aussi en accompagnement à la scolarité. Il y a beaucoup de thématiques. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est faire émerger des solutions économiques et solidaires sur les territoires. Mais ça, c'est très complexe. Peut-être c'est une utopie.
Non, c'est pas une utopie. Je pense que ça existe déjà en partie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont affaire à l'ESS sans le savoir. Là où c'est plus compliqué, c'est sans doute la dimension de transition par rapport même à un ancien modèle social. C'est comment on change.
C'est ça. Déjà, vous voyez, tout ce qui est... ça, c'est bien porté par les politiques publiques. La transition en matière d'ESS, elle sera aussi beaucoup administrative, je pense. L'idée, ça serait quand même de faire en sorte qu'on dessine un peu les yeux de tout le monde sur cette autre façon de faire. Mmh. Cette autre façon de faire pour que chacun soit un peu plus convaincu de son bien fondé, sans aller, parce que ça, c'est pas possible, on n'est pas assez fort, sans aller à l'encontre de tout ce qui se fait par ailleurs en termes économiques, mmh. mais en disant qu'il existe aussi d'autres façons de faire et qui sont peut-être plus à échelle humaine et qu'il faut révolutionner un petit peu les pratiques, la façon de travailler, la façon de financer de l'administration pour faire exister aussi ces modèles. C'est ça pour moi qui est le plus important pour le schéma de l'ESS. Voilà. Et pour arriver à cette incarnation de ce modèle que j'essayais de vous décrire, je pense que la transition, elle se fera aussi par l'administration. Mmh. Mais je pense qu'il y a un véritable enjeu pour que on retrouve un fonctionnement plus vertueux à tout point de vue, y compris écologique, sur les territoires. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'ESS. Vraiment, là, moi, je suis convaincue de ça.
Vous pouvez découvrir un complément de cet entretien d'Hélène Meunier, la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'ESS, ainsi qu'un article sur la transition de l'Institut régional des travailleurs sociaux vers l'ESS dans le dernier Altermidi Mag, disponible en kiosque. On nous demande parfois pourquoi Altermidi a choisi d'intégrer l'économie sociale et solidaire dans sa ligne éditoriale. Peut-être parce qu'en travaillant pour un média indépendant, nous nous sentons intimement liés à l'espace de l'ESS, toujours en construction, qui innove en permanence pour proposer des alternatives. Un espace complexe où les acteurs multiples de tailles et de secteurs d'activité très différents peinent à trouver des synergies, mais l'espace de l'ESS est fondamentalement porteur d'espoir et d'utopie. L'utopie est un printemps éternel, celle d'Altermidi est de décloisonner l'info et de faire entendre que l'information a une valeur d'utilité sociale. Être mieux informé permet de faire ses propres choix, cela renforce la démocratie dans un monde où on demande de moins en moins l'avis des citoyens et des citoyennes.
Bonjour.
Ce disque va vous faire revivre une des plus grandes pages de l'histoire de l'humanité. Écoutez-le attentivement.
D'accord.
Mais attention. Nous y avons glissé volontairement plusieurs erreurs. Où sont-elles? Où sont-elles?
Dynastie, pionnier majeur du hip-hop en France. Son premier LP, Panam City Rapping, sort en 1984 au label Funkinza Records et Cabana Music. Dynastie est le grand maître de Zulu Nation France, l'organisation créée en 1973 à New York dans le Bronx River par Afrika Bambaataa, ancien membre du gang des Black Spade. La Zulu Nation proposait une alternative pacifiste aux différents gangs violents qui contrôlaient la plupart des quartiers défavorisés de New York. Elle a donné naissance à la culture hip-hop, dont le principe majeur réside dans la canalisation de la violence par l'exercice d'art tels que la danse, la musique et la peinture.
Laissez-vous guider du début à la fin de ce disque. Nous vous indiquons clairement comment procéder pour poser la pointe de lecture. Commencez.
C'était il y a 40 ans, moment clé dans l'histoire de l'immigration et de l'antiracisme en France. La marche pour l'égalité et contre le racisme s'est déroulée du 15 octobre au 3 décembre 1983. C'était la première marche antiraciste d'envergure nationale en France. Partie de Marseille à 12, les marcheurs seront accueillis par une manifestation de 100 000 personnes à Paris avant d'être reçus par le président de la République, François Mitterrand. Entre-temps, la marche sera rebaptisée « Marche des beurs » par les médias. Pourtant considérée comme le mai 68 des enfants d'immigrés, la marche peine toujours à imprimer notre mémoire collective. Pour son 40e anniversaire, à l'initiative de la journaliste Rokhaya Diallo, elle a été célébrée le mois dernier au Centre Pompidou à Paris. Que reste-t-il de la marche pour l'égalité et contre le racisme 40 ans après ? C'est la question qui était au cœur des débats à La Mosson et à Figueroles durant 3 jours du 9 au 11 novembre, à l'appel de la Web TV montpelliéraine Kaina TV, membre du club partenaire d'Alter Midi. À Montpellier, l'événement commémorant les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme se voulait festif avec un concert de Mousse et Hakim, les frangins de Zebda, estampillés d'origine contrôlée sur la scène du théâtre Jean Villard. Elle se voulait aussi réflexive avec des débats, conférences et expositions, et revendicative en portant la parole de ceux qui marchent encore pour lutter contre les inégalités sociales, économiques et politiques ayant trait au quartier populaire. Une des questions qui se posent aujourd'hui à ceux qui ont mené et mènent toujours les luttes tourne autour de la transmission des valeurs pour l'égalité dans les quartiers populaires. On écoute successivement Zouina Medour de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs qui rappelle comment les femmes sont des leviers incontournables dans les combats tout en étant toujours invisibilisées et Mohamed Meshmash, président de l'association Assez le feu à Clichy-sous-Bois qui explique l'importance de transmettre le flambeau du combat social aux jeunes des quartiers.
Donc les femmes, elles sont actives dans tous les quartiers, dans tous les domaines. Elles agissent sur toutes les questions du quotidien. On n'en parle pas, mais moi, dans un quartier... Voilà, il y a un souci, par exemple, prenons l'école. Il y a un problème, il y a une fermeture de classe. Que vont faire les enseignants, le directeur d'école ou autre? Ils vont s'adresser aux habitants. Qui sont les premières personnes qui vont arriver pour organiser un sitting et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture de classe? Vous allez trouver les mères de famille en premier. C'est un engagement, ça. C'est un engagement. Vous allez les trouver en premier parce qu'effectivement, il n'est pas question qu'on ferme une classe par rapport à leurs enfants. Parce que qu'est-ce qu'on fera d'eux demain? Et la plupart du temps, c'est dans les quartiers populaires que ça se passe. Quand il y a des suppressions de classes, ce n'est pas dans les beaux quartiers. C'est là où on se fout complètement de la population. C'est ça la difficulté. Donc dans ce domaine-là, mais dans plein d'autres, quand vous regardez ici, il y a plein d'associations. Qui sont les acteurs de ces associations? Vous allez au Petit Bar, Espoir 34, aujourd'hui le local. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui se sont mises debout, qui se sont organisées pour faire en sorte, effectivement, que les conditions de vie faites aux habitants de ces quartiers soient le moins pire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, vu le contexte politique et la crise dans laquelle on est, on parle de moins pire. On ne parle pas d'avoir un avenir meilleur. On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas dramatique pour les enfants, pour leur donner un peu d'espoir, les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent effectivement poursuivre. Donc pour moi, la transmission, elle se fait naturellement, tout le temps, par leur acte, par leur engagement, parce qu'elles proposent, parce qu'on voit d'elles, parce qu'on raconte d'elles, parce qu'elles mènent comme combat, en fait.
On n'est pas venu ici pour faire la morale à qui que ce soit. On n'a pas cette prétention-là. On n'est ni les porte-parole de milliers de militants qui militent dans les quartiers, qui sont invisibles, mais qui font des choses. Donc on est juste là pour dire qu'on est des porte-voix, parce que là, aujourd'hui, on a la tribune, comme des fois on l'a ailleurs. Bah, c'est juste d'honorer tous ceux qui se battent et qui restent debout pour lutter contre les injustices. Et des injustices, il y en a plein partout. Il y a des gens qui se battent contre la rénovation urbaine parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des projets qui sont imposés. Il y a des gens qui se battent tout simplement pour que leurs écoles... elles soient réparées, qu'ils ont les meilleurs professeurs, que quand un prof est absent, il soit remplacé tout de suite et qu'on ne met pas 6 mois à le remplacer. Il y a des gens qui se battent pour leur santé, parce que c'est un vrai déficit. Il y a des gens qui se battent, comme on disait tout à l'heure, qui demandent aussi qu'ils soient protégés, qu'ils ne seront pas maltraités. Je veux dire, il y a des gens qui se battent parce qu'en gros, bah, ils ont étudié et qui méritent qu'on les regarde différemment et qu'on les regarde pas parce qu'ils ont une couleur de peau, parce qu'ils viennent dans un quartier qui a fait parler de lui, qui finalement ne le permet pas de le reconnaître avec ses compétences. Donc c'est tout ça en fait, cette question de transmission. C'est comment aujourd'hui on arrive tout simplement à ce qu'on réveille des consciences. Et réveiller des consciences, bah, c'est à travers de faire rencontrer des personnes qui clairement peuvent raconter une histoire. Et raconter cette histoire, c'est comment vous prenez la suite de cette histoire à votre époque, et vous faites en sorte que, comme nous on essaye de faire, pour limiter la casse, limiter ces injustices, ben vous continuez à prendre en main ce chemin-là pour dire, nous on veut plus de ça. Souvenez-vous, on disait souvent, nos parents, ils ne voulaient pas faire du bruit, ou ainsi de suite. Ils faisaient du bruit à leur manière. Simplement, on ne voulait pas les reconnaître. Ensuite, nous, on est les générations qui sont arrivées en disant, ben, nous, on a peut-être plus d'outils. Et ben, nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est que cette génération, et je sais qu'elle est franchement formidable, parce qu'aujourd'hui, elle est en capacité d'être créative et ainsi de suite, mais qu'elle doit s'intéresser à toutes ces luttes. Et qu'elle doit s'intéresser à... quand on parle de ces luttes, c'est parce que c'est eux qui vont être impactés. Et ils sont impactés, et regardez bien, je veux dire, quand aujourd'hui ils sont sur la question de l'emploi, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, le taux de chômage, il explose dans ces quartiers. Est-ce que c'est normal? Ben non. Il n'y a pas de raison que ça doit exploser. Quand vous cherchez des stages, ben, malheureusement, ben, vous êtes impactés. Quand, c'est pas à vous, je vais le dire, hein, aujourd'hui, vous êtes obligé de pouvoir faire des services civiques pour pouvoir peut-être, à un moment ou l'autre, de mieux comprendre ou d'être citoyen. Mais nous aussi, on demande qu'une chose, c'est que cette citoyenneté, elle puisse aussi être valorisée de la même manière que les autres. Ce qu'on demande, c'est que nos vies, elles ne valent pas moins que les autres. Elles valent autant que les autres. Et ce qui est important, c'est comment on fait. Vous m'avez demandé comment je fais. Je veux dire, à travers le collectif Assez le Feu, nous, on a essayé de réveiller des consciences, y compris politiquement. Parce que, comme disait un sociologue, exister, c'est exister politiquement aussi.
Vous êtes sur Radio Escapade avec le Média Altermidi. On vient d'entendre le témoignage de Zouina Medour, chargée de mission dans la ville Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, qui relativise pour le moins l'image généralement véhiculée sur les femmes des quartiers que l'on perçoit comme soumises ou prisonnières d'un ordre patriarcal strict, dont il faudrait les sauver. Elles sont au quotidien au cœur de l'action sociale militante et solidaire qui rythme la vie des quartiers laissés à l'abandon. Du local au mondial, on parle politique avec Tahar Arkemi, animateur de l'association Agriculture à Lunel dans l'Hérault.
À partir de ma petite place, aujourd'hui en tant qu'acteur sur le terrain, je me rends compte que ce mouvement était une belle histoire. Est une belle histoire. On peut le dire au passé, mais aussi au présent, parce que moi je pense que le combat continue des quartiers, parce qu'on le voit bien que la problématique des quartiers est toujours là, hein, de toute façon. On ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué. Les choses ont évolué, mais peut-être pas comme on l'aurait souhaité il y a 40 ans en arrière. Le mouvement, pour moi, a été récupéré, politisé, mais surtout récupéré. Surtout récupéré. Et ça, c'est un peu la tristesse. A été récupéré, mais on se rend compte que cette récupération, elle était mal... a été instrumentalisée d'abord, surtout. Ce mouvement n'a pas été vraiment compris... au départ, et du fait qu'il a été justement instrumentalisé. Et le problème, c'est que par la suite, ce mouvement qui existe, mais dans toutes les villes, dans toutes nos grandes villes, mais aussi dans toutes petites villes, il s'est filoché par des petites actions qui sont développées par les uns et les autres. Mais en tant que mouvement, en tant que tel, aujourd'hui, on a quelques personnes qui peuvent témoigner parce qu'ils ont vécu cette histoire. Mais en dehors de ça, pour parler politique, à mon sens, il est inexistant. Il est inexistant. Et ça, c'est bien dommage. Parce que vous voyez bien que c'est cyclique. Par période, comme ça, une crise, des quartiers populaires, des banlieues. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que moi, je trouve qu'on n'a pas traité réellement la problématique des quartiers. On a mis des pansements. Et on sait très bien que les pansements, c'est ponctuel, c'est éphémère. Et on voit bien que la problématique des quartiers aujourd'hui, elle est autre chose, mais elle est aussi un réel problème dans la société française. Et du coup, elle continue à être instrumentalisée par les partis politiques. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors que ça demanderait une vraie réflexion de fond. L'emploi, l'habitat, l'intégration. Là, on voit, quand je vois qu'il y a plusieurs générations qui sont passées, qu'on a l'impression qu'on a toujours le même discours. On est toujours étranger, en fait. On a l'impression, quand moi, là, aujourd'hui, je prends la parole avec vous, j'ai l'impression que je suis l'immigré, alors que je suis français à part entière. Et ça, on nous le rappelle, notamment les médias, qui nous le rappellent à chaque période. Les étrangers, les immigrés, l'islam, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent en permanence. Et ça, franchement, nous, ça nous, quelque part, ça nous décourage. Mais bon, on va dire que nous, on est des anciens, on s'accroche, parce qu'on sait qu'on a une mission. On a justement cette histoire de transmission. On a un rôle à jouer. Et moi, en tout cas, pour ma part, c'est l'éducation populaire, l'intergénérationnel, l'interculturel. C'est les seules choses qui nous feront faire en sorte que chacun d'entre nous puisse prendre conscience de sa véritable place.
À propos de mission et à propos de transmission intergénérationnelle, les jeunes aujourd'hui qui sont, et pas simplement les jeunes des quartiers, qui se désintéressent de la politique, quel message pourrait-on leur faire passer par rapport à cette existence ou cette inexistence politique pour changer la donne ?
Alors j'ai presque envie de, à travers cette question, j'ai envie de dire tout simplement aux jeunes, de toute façon, vous avez intérêt de vous engager. Vous avez intérêt de vous engager si vous voulez que votre avenir, vous preniez votre avenir en main. Sinon, c'est les autres qui vont prendre en main votre avenir. Je pense que les choses sont claires. C'est-à-dire que nous, en tant qu'anciens, je pense qu'on a intérêt de faire prendre conscience ça aux jeunes, leur dire, voilà, il faut vous engager. Engager dans les associations, vous engager dans les syndicats, vous engager en politique. Il faut vous engager. Il faut faire entendre votre voix. Et ça, c'est important. Faire entendre votre voix, mais c'est aussi une façon aussi d'écouter les autres. Et je pense que la construction ne peut se faire qu'à travers l'engagement.
Peut-être une petite réaction par rapport à l'actualité, notamment le vote au Sénat de la loi sur l'immigration, avec une possibilité de remise en cause, bon ça va passer encore à l'Assemblée nationale, mais de remise en cause du droit du sol.
Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire d'immigration, c'est cyclique. Tous les 10 ans, tous les 5 ans, on a droit à cette instrumentalisation. Donc cette politique de remettre toujours en question l'immigration. Alors, bien sûr qu'on est en droit de se poser des questions par rapport aux nouvelles vagues d'immigration qui arrivent sur le territoire, mais aussi sur l'Europe, hein, parce que l'immigration, elle n'est pas uniquement en France. Elle est dans tous les pays européens, mais elle est aussi dans le monde entier. Ça nous amène à nous poser des vraies questions. Quelle politique nous avons menée pour arriver à ce constat? Quelle politique nous avons menée avec les pays des pays, des migrants qui nous arrivent? Quelle politique nous avons menée? C'est une vraie question. Si aujourd'hui les gens continuent à mourir en traversant dans une barque la Méditerranée, on doit se poser des vraies questions. Donc là, c'est une question, pas moi en tant que militant associatif, mais aux politiques de se poser des vraies questions. Quelle politique nous devons avoir avec tous ces pays?
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire.
En 85, en pleine montée de l'extrême droite dans le pays, Rachid Taha reprend la chanson de Charles Trenet, écrite en 1943, alors que la France est occupée depuis 3 ans. On revient sur l'absence de représentativité politique des citoyens vivant dans les cités, avec l'inlassable porte-voix des banlieues, Mohamed Merchmarch. À propos de l'existence politique du mouvement donc, que vous avez évoqué lors de ce débat, comment justement faire vivre cette existence politique dans un contexte où les partis politiques fonctionnent structurellement et sont dans l'incapacité d'entendre les revendications d'égalité et de justice que vous défendez?
C'est simple, tant qu'ils continueront à rester dans notre soi, ils continueront à tourner en rond et ils se déconnectent quand même d'une certaine réalité. Et ce qu'on leur demande, c'est pas d'être nos porte-voix, c'est qu'effectivement ils peuvent effectivement porter ces luttes qui se passent dans ces quartiers, mais le mieux, c'est de permettre à ces habitants et ces militants issus de ces quartiers de pouvoir aller porter eux-mêmes leurs idées dans des instances comme les parlements, comme dans le Sénat, comme à l'Assemblée nationale, comme dans un conseil municipal. Et c'est là qu'il faut qu'ils arrivent effectivement à se dépasser et ne pas rester entre soi, quoi. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'à un moment ou à un autre, au lieu de capitaliser justement sur cette plus-value qu'il y a dans ces territoires-là et dans ces quartiers, en partant de quelque chose qui existe, parce qu'il n'y a pas de désert politique dans les quartiers, au contraire, on est très politisé. Simplement, encore une fois, je pense qu'on nous regarde d'une manière où on estime que nous, on est le sujet et qu'eux, ils sont les sachants et qu'ils porteraient mieux que nous, justement, cette parole. Et ben, moi, je trouve ça bien dommageable, parce qu'encore une fois, on finira par créer ce rapport de force qui permettra à un moment ou à un autre de reconnaître ce qu'on est et ce qu'on défend, quoi.
L'existence politique proprement dite de ce que vous revendiquez, c'est-à-dire la justice sociale, tout simplement, elle passe par quoi quand vous parlez aux jeunes aujourd'hui qui s'en désintéressent complètement?
Ben, c'est juste de leur dire qu'en fait, que les choses, elles se décident quant à qui du pouvoir, et que le pouvoir te permet d'avoir des leviers et de changer la vie des gens. Voilà. Quand tu es élu dans une commune, tu peux avoir des responsabilités, une délégation qui te permet d'avoir un budget et qui te permet d'avoir des leviers pour changer la vie des gens. Donc ça joue là aussi. Donc il est important, encore une fois, de ne pas rester spectateur mais d'être acteur. Et de dire, en gros, à ces partis politiques, tant que vous ferez pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Et si ça, si vous ne l'avez pas compris, bah, c'est bien dommage, quoi.
Si on divise la politique en deux grandes parties, c'est-à-dire la dimension qui va concerner l'accession au pouvoir et celle qui concernera ensuite la gouvernance et les décisions justement de justice sociale, le passage pour accéder au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas dangereux au point où justement, si on veut avoir du pouvoir aujourd'hui dans un parti politique, on avale beaucoup de couleuvres?
Ah non, je pense qu'il faut aussi qu'on garde effectivement des convictions. Il ne faut pas non plus tout accepter juste parce qu'on veut du pouvoir. Je veux dire, en gros, nous qui sommes issus de ces quartiers, comme on dit, on n'a rien à perdre. Hein. Je veux dire, au contraire, on peut avoir tout à y gagner et on fera différemment, sûrement. Je ne dis pas qu'il existe effectivement des travers, mais si on met des garde-fous et que clairement on est en capacité de comprendre où ça doit nous mener et le pourquoi du comment on s'est engagé, je dis pas qu'on n'y arrivera pas, quoi. C'est tout.
Un petit mot peut-être sur la décision, la loi qui a été votée au Sénat, qui doit encore passer à l'Assemblée nationale, sur l'immigration, et notamment la mise en question du droit du sol.
Non, mais c'est pour ça que là, je me dis, je crois que... On parlait de transmission de mémoire. Je pense qu'il y en a qui ont oublié que... il y en a qui sont morts ensemble par le sang. Et ils ont oublié l'histoire. Et à l'époque, ceux qui sont venus, qui se sont engagés, qui sont morts pour la France, on regardait pas leur couleur de peau, ni leur religion. On les regardait parce qu'ils venaient défendre une liberté. Et je pense que certains ont oublié, quoi.
Merci. Alter Media en escapade est sur le point de s'achever avec une petite phrase qui trotte dans la tête d'Aldetar Akermi, qui conseille aux jeunes des quartiers de faire entendre leur voix, et cela leur permet aussi d'écouter les autres. Alter Media s'achève. Alter Media en escapade s'achève. Merci à Fabien pour la prise de son. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Escapade. On se retrouve du coup l'année prochaine. Portez-vous bien.